Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui là tout de suite vous arrive sous forme d'Extra Ball, notre petite récréation hors format qui nous permet de mettre un rapide coup de projecteur sur un film du moment ou comme on va le faire tout de suite, une ressortie avec la parution en Blu-ray de Crazy Day de Robert Zemeckis qu'on va évoquer avec mes camarades Rafik Djoumi et Julien Dupuis. Salut à tous les deux.
Salut Thomas.
Cénociné Extra Ball spécial Crazy Day, c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Beaucoup trop d'enthousiasme sur ce et c'est parti. Mais c'est pas grave. Crazy Day, I Wanna Hold Your Hand en VO, titre qui aide un peu plus à saisir le pitch du film puisqu'il est question des Beatles et d'un groupe de fans du New Jersey qui, à l'occasion de la première venue du Fab Four aux États-Unis, va filer à New York pour tout tenter pour voir ses idoles sur scène ou dans leur chambre d'hôtel tant qu'à faire. C'est à peu près ça, les amis?
Tout à fait.
Merci.
Sur scène au L de Sullivan Show, en fait, qui est
oui,
leur première apparition.
Invité pour la première fois la télévision.
Voilà, qui restait un moment historique, tout à fait, paraît-il, pour les Américains.
Voilà. Mais oui, complètement. Alors ce film, que vaut-il? Moi, je ne l'ai jamais vu personnellement. C'est une part inconnue pour moi de la carrière de Robert Zemeckis. Je vous laisse le soin de me le vendre.
Déjà historiquement pour ceux qui s'intéressent au cinéma un certain cinéma des 80s et notamment celui d'Amblin c'est un film je pense qu'il mérite d'être vu ne serait-ce que pour comprendre en fait comment les choses se sont mises en place. C'est la première production de Spielberg donc à l'époque où il était sous contrat à l'Universal la Universal ne voulait pas produire ce film-là. Elle voulait pas miser sur un cinéaste sur deux en plus, parce qu'il n'y a pas que Zemeckis, il y a Bob Gale aussi, sur deux gars qui avaient jamais rien fait en long. Et en fait, le deal, c'était que si Zemeckis partait en vrille, Spielberg devait le remplacer au pied levé. Donc du coup, Universal était gagnant parce que c'était un petit budget, c'était 2,8 millions, je crois, pour l'époque. Petit moyen, voilà. Donc ça c'était c'est déjà intéressant de ce point de vue-là et aussi parce que une bonne partie de l'équipe va se retrouver sur le 1941 de Spielberg, bien sûr Zemeckis égale au scénario, oui. Mais également beaucoup des comédiens principaux en fait. On a donc Nancy Allen, on a Bobby DiCicco, comment il s'appelle,
Eddie
Deason, voilà, et celle qu'on a pratiquement jamais revue ensuite, là Wendy Jo Sperberg qui joue la grosse dans 1941, avec beaucoup de gags autour de son poids d'ailleurs, oui. Ce qui est moins le cas dans le film de Zemeckis. Et c'est un film qui a un peu surfé sur la vague post-American Graffiti quand il s'est fait qui avait vraiment été je pense assez marquant parce qu'il n'y avait pas tellement de films nostalgiques dans le Hollywood d'avant et il est assez intéressant de ce point de vue là parce que même s'il émule même visuellement d'ailleurs parfois notamment dans les scènes du début un peu American Graffiti, en fait il se détache complètement du discours nostalgique. Il s'agit vraiment pas de comment dire, il s'agit pas d'un film qui nous invite à nous replonger dans un passé idéalisé, mais à essayer de comprendre ce qui s'est passé dans ce passé-là pour qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui. Donc c'est au moment où il sort en 78, c'est un film contemporain. C'est un film qui met en scène un groupe de quatre filles, les seconds rôles sont tenus par des mecs, et en fait la Beatlemania qui est au cœur du projet va modifier la vie de ces nanas et leur façon de se comporter en société. C'est flagrant dans le personnage de Nancy Allen qui s'apprête à se fiancer, à mener une vie bien rangée et qui en gros à travers cette expérience va complètement lâcher l'affaire,
découvrir le sexe.
Découvrir le sexe au détour d'une scène de fétichisme assez étonnante, il faut quand même le dire.
Elle fait une fellation à un manche de guitare.
Parce qu'elle, en fait, elle se retrouve coincée dans la chambre des Fab Four alors qu'ils sont absents, elle, complètement par accident, et elle commence à tout lécher, en gros, de tout ce qui se trouve là.
Mais spécialement le manche de guitare.
Pareil avec, comment elle s'appelle, la fille de Paul Newman, Suzanne Kendall Newman, qui, elle, dans le groupe de filles, est celle qui déteste les Beatles, en fait, parce qu'elle est à fond sur les chanteurs engagés, type John Baez et compagnie, elle fait chier tout le monde avec ça, et qui, en fait, va y avoir un événement où elle va voir la foule de fans en furie s'en prendre aux flics à propos d'une histoire de coupe de cheveux et réaliser que cette énergie déclenchée par des She Loves You est une énergie de rébellion, là où elle voyait avant tout une machine commerciale, en fait. Voilà. Ouais. Donc chaque personnage voit un peu son parcours, enfin sa vision du monde se modifier. Et donc c'est vraiment c'est un changement d'époque qui met en scène.
Julien. Ouais,
et je pense que ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que ce qui est intéressant, effectivement, quand tu t'intéresses à la carrière de Spielberg et à tout ce qui va se passer derrière, c'est que Crazy Days, c'est aussi un galop d'essai sur 1941. C'est-à-dire que Rafik, il parlait des comédiens et c'est vrai, enfin voilà, et c'est pas un hasard, je pense.
De l'équipe technique aussi.
Hein. Ouais. Mais même la structure, en fait, scénaristique fait énormément penser, en fait, à 1941. C'est-à-dire que tu prends un événement historique qui est là, pour le coup, réel, ce qui n'était pas le cas dans 1941. Non, et en fait, tu autour de ça, tu fais graviter tout un tas de personnages pour essayer de faire une espèce de comédie totalement délirante qui fait beaucoup penser à ce que tu pouvais lire dans les pages de Mad, etc. Donc t'as de toute façon cet héritage là, en fait, oui, qui est tout à fait prégnant, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'est un super complément à 1941. Si tu aimes 1941, je pense qu'il faut voir absolument ce film là moi l'autre truc aussi qui m'intéresse énormément dans Crazy Day, c'est c'est Zemeckis, en fait. C'est de voir en quoi dès le premier film, en fait, tu peux reconnaître la patte de Zemeckis au-delà, en fait, de son travail de scénariste avec Bob Gale sur 1941. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui fait immanquablement penser au final de Retour à le futur,
ouais,
où t'as un mec qui est accroché en haut d'une espèce
d'antenne.
Oui, oui, qui est accroché dans un truc sous un orage, qui manque de tomber, etc. Même au niveau des cadres, c'est Doc Brown, quoi. Ouais. Enfin,
et ça, même l'action qu'il essaie de mener, sans spoiler, ouais, en fait, s'il réussit son action, en gros, il change le cours de l'histoire. Et c'est un éclair qui arrive au bon moment et qui va finalement s'assurer l'empêcher de modifier l'histoire. Donc,
il y a aussi tout ce côté rotomane, en fait, qu'a Zemeckis, hein, qui est toujours là. Il est quand même le créateur de Jessica Rabbit. Quand tu travailles pour Disney et que tu crées un personnage comme Jessica Rabbit, ça se pose là, et donc là on en a déjà parlé, mais c'est aussi présent. Et aussi la façon qu'il a de détourner, puisqu'on sait que c'est un fanat de Hitchcock, donc de détourner certains découpages aussi de Hitchcock dans des scènes qui n'ont finalement rien à voir. Il y a une scène notamment dans un salon de coiffure où très clairement il y a un découpage comme s'il s'agissait d'une scène de film à suspense. Et il y a un autre truc aussi que moi j'adore et qui est un pur régal là de mise en scène dans le film, c'est cette obsession que Zemeckis il a de jouer avec des images d'archives, en fait, et comment il les intègre, en fait, à sa fiction. Et évidemment ça se passe des années avant Forrest Gump, donc il a pas à disposition les effets spéciaux numériques qu'il va avoir utiliser dans Forrest Gump, qui vont lui permettre d'ailleurs de faire en sorte que Forrest Gump rencontre John Lennon, d'ailleurs. C'est assez intéressant aussi, ça. Mais sans vouloir spoiler, on voit, en fait, la représentation, en fait, des Beatles sur scène. Sauf que ces personnages sont dans la salle. Et évidemment, Zemeckis étant Zemeckis, il va pas se contenter, en fait, d'un simple chant contre chant. Et il y a un travail, en fait, sur le cadre et sur les doublures, en fait, des Beatles, qui est absolument remarquable. Qui est pas vraiment, enfin, c'est au-delà de l'effet spécial. C'est l'effet spécial, en tout cas, intégré à sa mise en scène. Notamment, il filme, par exemple, les moniteurs de télé avec les vrais Beatles sur l'image du moniteur, et en fond tu vois, sur un travelling, etc., tu vois les doublures, en fait, qui sont là, et du coup t'as un vrai trouble, en fait, toi, en tant que spectateur, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder exactement là. Et c'est je trouve ça passionnant de se dire que dès le premier film, ce mec-là travaillait déjà là-dessus, quoi, sur ce qui l'amènera plus tard à réutiliser Clinton dans Contact, ou des choses comme ça.
Avec l'assistance d'un des plus grands truqueurs, enfin responsable responsable d'effets spéciaux de l'époque, qui bossait pour Hitchcock d'ailleurs, qui est Albert Whitlock.
Qui travaillerait sur 1941.
Et aussi, chose étonnante pour un film des années 70, c'est le recours à une très très grande profondeur de champ et à des compositions du coup dans la profondeur. Il n'est pas rare d'avoir vraiment un personnage qui apparaît au premier plan alors que l'action se passe au troisième, etc.
C'est un truc qui le rapproche de Spielberg, je pense, oui. aussi, qui vient aussi de leur éducation de cinéma, dans l'âge d'or du cinéma hollywoodien.
Et notre ami collègue Jérôme Vibon avait mis la main sur une séquence de la télévision française qui avait filmé le tournage de Crazy Day, qu'il n'a jamais utilisé. Ça a dû passer une fois quelque part.
Oui,
voilà. Et c'était intéressant parce qu'on voyait, Zemeckis, comme on le voit rarement, c'est-à-dire au travail, mais de façon paniquée, en fait, d'un stress ahurissant, alors que Spielberg le visitait. Ce n'était pas un sujet sur Zemeckis, c'était un sujet sur Spielberg. Mais Spielberg visitait le plateau, qui était en fait, toutes les séquences de foule, avec beaucoup de figurations, ont été planifiées, en gros, sur une ou deux journées, quoi, pour vraiment rentabiliser au maximum. Et donc, il était en train de se prendre la tête sur comment couvrir. Ouais. C'était pas pour une séquence, c'était pour plusieurs séquences, le jour, la nuit, etc. Et tu le vois demander conseil en fait à Spielberg. Si je la mets là comme ça, est-ce que j'aurai la voiture juste avant? Tu crois? Mais oui, ça va aller. Tu es toujours très calme, mec. Tu vas t'en sortir. Donc ça, c'est pas mal. Effectivement, c'est pas. Enfin, même si le film a des défauts évidents, oui. Notamment un coup de mou vers le milieu, qui est dû aussi au fait que peut-être il démarre trop vite, c'est-à-dire que d'emblée on est à la fois en train d'essayer d'élaborer une histoire, mais en même temps essayer de mettre le maximum de gags possible. On doit avoir genre 14 cascades avant la 10e première minute.
Non, mais c'est leur truc aussi à Bob Gale et à Zemeckis, en tout cas à l'époque où ils remplissaient le truc comme une loutre à mort.
Et on retrouvera d'ailleurs ça dans ce problème de structure dans
1941.
Mais c'est intéressant de voir que justement sur un plan visuel il est déjà très très avancé, quoi. C'est un film que je trouve a encore de la gueule, quoi, si on le compare à des petites productions de la même époque.
Et qui est très bien, mis en scène. Ouais, c'est vrai que c'est tout à fait souple et ça ressemble pas à un premier film.
Et c'est fortement recommandé, donc vous l'aurez compris par nos ciné. Crazy Day, c'est dispo en Blu-ray. Ouais, c'est sorti chez.
C'était sorti dans les années 80, vaguement, faut le dire aussi, ça, vite fait. Mais je crois qu'il n'était jamais sorti en vidéo, même.
En DVD, jamais. Donc c'est un Blu-ray. Vous avez deux bonus dessus. Je vous déconseille celui de. Comment il s'appelle, Rafi Djoumi, qui raconte un peu n'importe quoi sur Spielberg et Zemeckis. Mais vous avez également un autre bonus avec un gars qui s'apprête à sortir Rémi Grelo, qui s'apprête à sortir une biographie de Zemeckis chez Rouge Profond.
Voilà. Très bien, comme ça nous sommes complets. C'est sorti, je l'ai dit, donc chez ESC, cette édition Blu-ray. Notre temps est écoulé. Merci messieurs, merci à Quentin, à la technique, à l'antenne pareil pour l'accueil, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.